enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Nos habitudes ». Donc on va parler de choses très importantes, comme par exemple des chaussettes qui traînent dans la chambre à coucher, des salles de bain inondées et des autres choses comme ça qui sont très importantes parce qu'elles empoisonnent la vie quotidienne dans bien des familles. Et vous allez voir que nous avons besoin de réaliser ce qui se passe dans nos habitudes. J'ai réfléchi à la façon dont on se lève le matin et les choses que nous faisons pendant la journée. Et je ne suis pas arrivé à faire un pourcentage exact. Je ne sais pas comment des fois ils font pour faire des pourcentages. Mais je ne suis pas arrivé à faire un pourcentage exact. Donc je vais dire un chiffre au hasard. Je suis pratiquement convaincu que plus de 90% des choses que nous faisons dans la journée, nous le réalisons par automatisme. Ça vous semble juste ? Au moins 90, disons. Sinon, beaucoup plus. Et je me suis dit, si je me lève le matin, même quand je ne suis pas encore levé, si je me réveille, je ne vais pas me dire consciemment, ça y est, c'est le moment de me réveiller. Je vais ouvrir mes yeux. Maintenant, je me redresse de mon lit. Je pose ma jambe droite d'abord, bien sûr, c'est très important. Ensuite, ma jambe gauche, et puis je me redresse. Ensuite, je vais, par exemple, enlever mon pyjama. D'abord, etc., etc. Vous vous rendez compte que vous ne faites pas ça, hein? Vous faites tout ça sans y penser. Mais vous l'avez pas toujours fait. Vous l'avez appris, hein? Pratiquement tout ce que nous faisons, nous l'avons appris. Et il en est de façon très différente avec les animaux, hein? Quand on voit, par exemple, un poulain qui naît, il naît et puis quelques minutes après, il marche et il gambade et puis en quelques heures, on peut dire, il aura pratiquement appris tout ce qu'il va faire pendant le reste de sa vie. Mais pour nous, il en est totalement différemment parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a voulu qu'on apprenne des choses. Alors, on a appris beaucoup de choses et certaines choses, eh bien, ne sont pas très bonnes. Alors, vous connaissez sans doute ce passage de 1 Pierre 1, 18 à 19. Alors, on va lire ensemble. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Réfléchissez un moment maintenant à ce passage qu'on a tellement souvent utilisé, n'est-ce pas vrai? Vous n'avez jamais entendu dans des cultes des gens qui prient et qui remercient le Seigneur. Merci de nous avoir délivrés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Moi, j'ai entendu souvent cette prière. Et je me suis dit, mais ce que j'ai hérité de mon père qui m'a conduit à vivre d'une certaine façon, que la Bible appelle une manière de vivre vaine, je ne l'ai pas reçu par filiation automatiquement. Je l'ai observé chez mes parents et en général, c'est ce qui se passe. J'imite le comportement de ce que j'ai reçu pendant toute mon éducation. Ainsi que si nous sommes délivrés par le sang de Jésus, qu'est-ce qui a changé en nous? Notre nature a changé. Nous avons maintenant Dieu pour Père, nous avons une nouvelle nature, mais nos habitudes n'ont pas changé. Vous le réalisez ça? Parce que les habitudes que nous avons héritées de nos pères, héritées par éducation, par imitation, par toutes sortes de comportements, eh bien ceux-là, ils continuent. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à renouveler notre intelligence, etc. Mais la plupart du temps, nous sommes des gens qui avons acquis des habitudes. Et ces habitudes, vous pouvez être chrétien, vous pouvez même être rempli de l'Esprit de Dieu, vous pouvez exercer les dons spirituels, vous pouvez faire plein de choses et avoir encore et régulièrement des mauvaises habitudes. Ça vous arrive? Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes importants dans la vie de certains, ou dans la vie d'une communauté, d'une église, ou dans la vie d'une famille ou d'un couple, à cause de mauvaises habitudes que nous avons conservées. Comment se crée une habitude? Une habitude se crée parce qu'un jour, on commence à faire quelque chose. Ce n'est pas tout de suite une habitude. On commence à le faire une première fois. Et ensuite, on le répète, et on le répète, jusqu'au moment où on le fait d'une manière répétitive, régulière, et des fois sans y penser. Automatiquement, on refait les mêmes gestes. Alors, imaginez quand c'est des mauvaises habitudes, ça conduit à des conséquences graves, des fois, dans notre vie. Graves. On va parler tout à l'heure de la dépendance. Je prends, par exemple, tout de suite, une illustration. Le fait de fumer. Fumer est une mauvaise habitude. C'est mauvais pour notre corps, d'accord? On le sait. Mais comment ça se passe la première fois? Avant que ce soit une habitude et une dépendance, il y a une première fois où on commence. Et si vous observez ceux qui fument la première fois, vous ne dites pas tout de suite « Ah, c'est délicieux, c'est merveilleux ». Non, leur corps réagit immédiatement. C'est quelque chose d'étranger qui vient en nous. Nos poumons ne sont pas faits pour qu'ils soient remplis de fumée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre corps réagit et cherche à expulser cette fumée et ces corps étrangers qui veulent s'y mettre. On est fait comme ça. Mais peu à peu, on oblige, on force notre corps à le faire régulièrement et on s'y habitue, on s'y attache. Et maintenant, il se crée un autre phénomène, c'est que maintenant, notre corps, même s'il tousse encore, parce que ça arrive, hein, les poumons sont encrassés et puis ils veulent des fois se dégager, mais même si ça arrive, il s'est créé maintenant une habitude de dépendance où on en a besoin, on le réclame régulièrement. D'accord? Et si vous prenez cette illustration, comment pouvez-vous alors amener quelqu'un à se débarrasser de ça? Je ne parle pas maintenant du fait qu'il y ait quelque chose derrière qui pousse la personne à fumer. Ça, c'est encore un autre sujet, hein. Mais je veux simplement dire, si quelqu'un veut s'en débarrasser, eh bien moi je dis, ça va se passer de la même façon qu'on a commencé. Il va y avoir un moment de conflit, quelque chose de violent, parce que notre corps va, enfin pour ceux qui c'est le cas, il va réclamer ce qu'il a l'habitude d'avoir et il va le vouloir. Et donc il faut cette fois-ci lui faire violence dans le sens inverse. Eh bien tu ne l'auras pas, ce que tu demandes. Et il va réclamer, il ne va pas être content. Et ça c'est le sevrage à la manière difficile. Mais je pense que même si on fait des patchs et d'autres choses, il y aura toujours un moment où il y aura comme une espèce de bras de fer. Et nous ne parlons pas, en tant que chrétiens, simplement de notre force de volonté et tu n'as qu'à vouloir et puis tu peux t'en débarrasser, etc. Nous avons les ressources de Dieu, heureusement. N'est-ce pas vrai? Mais quelque part, ça va commencer de la même façon, la délivrance va commencer de la même façon que la mauvaise habitude a commencé, par une décision. Un moment où nous voulons ce que nous avons imposé à notre corps dans une première fois, nous voulons maintenant l'en priver et nous devons le décider, nous devons le vouloir. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Parce que même si nous voulons que Dieu nous en délivre, il va regarder à notre volonté, notre désir. Sinon, rien ne peut se faire. Et là, j'en arrive tout de suite à mon premier petit point que je voulais souligner. Nos mauvaises habitudes, sommes-nous prêts à les changer? Sommes-nous prêts à les changer? Après, je ferai une petite astuce sur les changer et les changer. Écrit, ça passe mieux. Les changer les habitudes ou échanger une mauvaise habitude contre une bonne habitude. Parce que je suis persuadé que si on ne fait pas ça, il n'y a pas réellement de victoire. Jésus a dit que si une maison, si on en chasse le démon, et que cette maison est maintenant nettoyée, balayée, ornée, mais pas habitée, il va revenir avec cette autre et ça sera pire qu'avant. Donc il sera nécessaire, à un moment ou un autre, si vous voulez vous débarrasser d'une mauvaise habitude, il faudra y mettre une bonne habitude à la place. Parce que ça, c'est la loi de la physique. La nature a horreur du vide. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons aussi horreur de ces vides. Le vide, solitude, besoin, manque, tout cela peut être et va être comblé par Dieu, de toute façon. Mais si nous ne sommes pas prêts à l'échanger, ça va être très difficile. Alors, qu'est-ce que nous devons d'abord dire? Premièrement, ce que nous tolérons, nous ne pouvons pas le changer. Si nous considérons que certaines choses sont acceptables dans notre vie, ça veut dire je peux les supporter, je peux vivre avec, je ne peux pas les changer. Et quels sont un peu les raisonnements qu'on a pour les rendre acceptables? Personne n'est parfait. Les autres aussi, ils ont leurs défauts. Tout le monde a ses défauts. Faut pas vouloir être trop parfait ou perfectionniste. Alors perfectionniste, c'est déjà une maladie, vous voyez. Mais la Bible nous parle à nous, non pas de maintenant de vouloir être maniaque ou perfectionniste, mais elle nous parle de vouloir plaire à Dieu. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Parfait, pas dans un sens, une position. Maintenant, moi, je suis parfait. J'ai atteint l'objectif. Non, la perfection biblique, elle parle du désir de plaire à Dieu et d'être toujours dans cette attitude de permettre au Seigneur de nous transformer. Toujours, toujours, toujours. Vous êtes dans cette attitude? Vous voulez vous débarrasser de certaines mauvaises habitudes? Tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais on peut en être délivré. Tout le monde a ses défauts, n'est pas une excuse. Et j'en arrive à mon deuxième petit point. Il faut appeler un chat un chat. Très important ça, retenez ça. Il faut appeler un chat un chat. Un péché, c'est un péché. Et des mauvaises excuses sont simplement des mensonges du diable que nous acceptons, mais qui nous gardent dans la médiocrité. Les mauvaises excuses, je leur donne tout de suite une connotation, parce que des fois on pense avoir des bonnes excuses. Les excuses sont souvent mauvaises. Surtout avec Dieu. Parce qu'avec lui, on n'a pas d'excuses parce qu'il a tout fait pour nous. D'accord? Donc, il faut désirer le changement, ne plus vouloir vivre avec, reconnaître ce qu'est un péché. Un péché, c'est quelque chose qui nous prive du meilleur de Dieu, quel qu'il soit. Vous connaissez bien le passage qui dit, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le salaire du péché, c'est la mort, et je dois faire cette précision. Adam et Ève ne sont pas tombés raides morts physiquement au moment où ils ont désobéi à Dieu. Mais la mort est entrée en eux et a commencé d'agir. Et c'est la même chose pour nous. Salaire du péché, c'est la mort. Ça ne veut pas dire que si vous désobéissez à Dieu, vous tombez raides morts. Ananias et Saphira ont fait cette expérience. Mais pour nous, nous pouvons simplement, tout en étant vivants encore, et la Bible parle dans l'Apocalypse à un moment, le Seigneur qui dit à une église, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a de la mort qui agit en toi. Vous ne participez plus à la vie en abondance de Jésus. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Et chaque négligence entraîne des conséquences. Vous êtes déterminé maintenant à combattre vos mauvaises habitudes afin que la mort n'agisse pas en nous. J'avais entendu la petite anecdote de Martin Luther avec sa rencontre avec le diable qui lui a montré sa liste des péchés. Et il était venu, Martin Luther, j'ai quelque chose à te montrer. Et puis, donc voilà comment on le raconte. Hein. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors il lui montre, voilà la liste de tes péchés. Et puis regarde, il reconnaît effectivement que c'est la liste de ses péchés. Mais il dit, il y a encore quelque chose d'autre. C'est que le sang de Jésus m'a totalement délivré de tous les péchés. Et de la même façon que nous, notre nature peut être changée, nos péchés peuvent être effacés, mais les habitudes, vous avez remarqué qu'on ne peut pas s'en débarrasser si facilement. Et alors on retombe toujours, on dit je suis encore tombé, mais il y a une solution. Nous ne parlons pas dans notre sujet aujourd'hui d'un péché occasionnel. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, si quelqu'un a péché, ça veut dire condition, si ça arrive, occasionnellement, alors il y a 1 Jean 1,9. Mais moi je déclare que 1 Jean 1,9 n'est pas le verset adapté pour nos habitudes. Pour combattre nos habitudes, les mauvaises, il faut autre chose que 1 Jean 1,9. Sinon vous allez vous retrouver, semaine après semaine, ou jour après jour, à le matin être déterminé, non, je ne vais pas tomber, et le soir à supplier Dieu de vous pardonner et à invoquer un Jean 1,9. Et vous aurez une vie, comment ? Misérable. La mort agit en vous. Il n'y a pas de vie en abondance de cette façon. Donc, j'ai pris cet exemple du fait de fumer. Il y a le tabagisme, il y a toutes sortes de drogues, et quand je parle de drogues, ça peut être des drogues ou des dépendances de médicaments aussi. On prend des habitudes et après on en dépend. S'enivrer, problème d'alcool. Certains peut-être ne toucheraient jamais à la cigarette et l'alcool, mais pour eux ça sera trop manger. Dépendance, ça peut être la télévision, ça peut être l'ordinateur, s'adonner à une passion, jeu d'argent, le foot. Ça, tout ça, c'est des dépendances qui ont commencé un jour sous un prétexte qui semblait acceptable. Par exemple, trop manger, ça peut être un jour on a fait la fête, il n'y a pas de mal à ça. On peut une fois avoir un festin, et la Bible parle de certaines choses, mais après, il peut y avoir toutes sortes de choses qui deviennent des habitudes. Il peut y avoir aussi les dépendances, mais aussi autre chose, c'est notre comportement. Le diable ne nous connaît pas selon nos pensées. Il nous connaît selon nos réactions. Notez bien ça. Il ne lit pas en vous. Il vous observe tout le temps. 1 Pierre 5, 8 nous dit que le diable est comme un lion rugissant. Il rôde et il cherche qui dévorer. Ça veut dire qu'il ne dévore pas n'importe qui. Il y en a certains qui sont des proies plus faciles à dévorer. Il vous observe et il regarde comment vous réagissez. Il fait que dans votre vie, il va y avoir des circonstances qui seront négatives. Des choses qui vont se passer, qui vont vous contrarier. Par exemple, quelle va être votre réaction par rapport à une contrariété ou une dispute? Certains se ferment, ou boudent, ou se fâchent. Alors, si vous me permettez l'illustration, il a son petit carnet et dit, ah, chaque fois qu'il y a une petite contrariété, il boude. Il boude, ça veut dire il se renferme en lui-même, il se coupe du reste, et qu'est-ce qu'il devient par là? Une proie plus facile. Il est seul. Peu à peu, je vais lui dire, tu es seul, personne ne te comprend, etc. Et puis, il continue, et puis peu à peu, on devient une proie facile. Parce qu'il observe nos réactions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est mon problème, que j'ai la mauvaise habitude que j'ai développée, chacun d'entre nous peut une fois être contrarié, ça c'est pas la question. Mais si j'ai développé une habitude où chaque fois je me ferme sur moi-même, je boude, ça veut dire que peu à peu, c'est quelque chose qu'il va utiliser. Utiliser pour nous détruire. Donc c'est important, peut-être aujourd'hui le message sera un peu négatif dans ce sens, qu'on va énumérer beaucoup de choses, mais c'est important tout d'abord que vous puissiez les cibler. Peut-être on prendra le temps une autre fois de développer davantage tous les aspects positifs et comment on peut triompher de ça. Mais si aujourd'hui nous arrivons déjà à une prise de conscience que c'est plus que simplement un petit défaut de laisser traîner ses chaussettes dans sa chambre, je ne vais pas vous condamner pour ça, chaussettes sales en plus, alors là, ça dépasse tout ce qui est autorisé. Il peut y avoir d'autres aspects du comportement. Remettre à plus tard. Ne pas faire les choses tout de suite. Toujours remettre à plus tard. Vous voulez le remettre à plus tard pour quoi faire? Pour qu'il y ait une meilleure occasion? Pour que vous ayez plein de temps? Vous savez que vous n'aurez jamais plein de temps pour le faire. Mais qu'est-ce que ça va vous faire? Si vous remettez certaines choses toujours à plus tard, ça va faire que vous allez perdre du temps à devoir y penser tout le temps. Au final, vous aurez perdu du temps. La seule question, c'est que vous devez prendre la décision. Est-ce que cette chose mérite que je le fasse déjà? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me vole mon temps? Et ensuite, quel sera le bon moment de le faire et vous le fixez sur votre planning? Je sais que ça peut paraître un peu directif, mais c'est comme ça qu'on fait réellement des progrès. Vous savez, nous, on a quelque chose d'extraordinaire dans notre cuisine. C'est un petit tableau blanc. On écrit toutes les choses qui sont à faire. Et aujourd'hui, il s'est passé une chose extraordinaire. Il n'y avait rien sur le tableau. Rien. Ça fait des mois que ça n'est pas arrivé, au point qu'un de mes enfants a écrit dessus « rien » avec un grand point d'exclamation. Il n'y avait rien. Mais nous avons, moi je ne dis pas que tout le monde doit avoir son petit tableau blanc à la cuisine. Ce n'est pas la question. La question, c'est que nous avons des possibilités où nous pouvons nous aider pour nous débarrasser de certains problèmes. Je pense aussi, quelque chose de très important, l'eau. Gaspiller l'eau, c'est une mauvaise habitude. Prenez quelque chose de très simple. Quand vous vous brossez les dents, il y a des gens qui ouvrent le robinet et pendant qu'ils se brossent les dents, l'eau coule. Vous avez vu ça déjà faire? Ça arrive. Eh bien, au prix où on est l'eau maintenant, je dis, pendant ce temps, il y a l'argent qui descend le long de la canalisation. Mais comment faire si on a pris une habitude, si on a toujours vu faire comme ça? Moi, je vous garantis que peut-être ça vous fait rire, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faudra que quelqu'un ait la présence d'esprit de dire, il faut fermer le robinet. Et qu'il vous dise, il faut fermer le robinet. Peut-être c'est un de vos enfants. Que vous devez lui dire, il faut fermer le robinet. Peut-être il n'y pensera pas. Mettez une petite pancarte à côté du robinet. Pensez à fermer le robinet pendant que je me brosse les dents. Je vous dis ces choses parce que vous allez devoir, c'est votre devoir pour la maison, inventer vous-même les choses qui vont vous aider à sortir de certaines mauvaises habitudes. Les comportements. Remettre à plus tard, j'ai dit, un langage par exemple. Jurer, dire des grossièretés. Bon, ça ne se fait pas chez les chrétiens, d'accord. Bon, ça c'est la théorie. Mais peut-être quelqu'un pendant toute sa vie, il a entendu des grossièretés, des gros mots, etc. C'est pas parce que sa nature change que son langage change. Vous avez remarqué déjà? J'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'a bien plu. Quand j'étais un jeune homme, il y avait une prof de français qui nous a raconté l'histoire de Henri IV. Henri IV était originaire du Béarn, donc France du Sud-Ouest. Et donc, il avait un juron. Quelqu'un le connaît? Il disait, dans son langage du Béarn, « J'arnie Dieu ». Et ça veut dire « Je renie Dieu ». Mais alors, il le contractait et il disait tout le temps « J'arnie Dieu, j'arnie Dieu » avec son accent. Et donc, il y avait son conseiller spirituel, c'était l'abbé Coton. Il s'appelait Coton. Il disait, mais sire, ça ne va pas, vous ne pouvez pas tout le temps dire cette chose horrible. Et alors, il lui a dit, eh bien, changez l'expression. Dites, je renie Coton. Et ça a donné j'arnie Coton, qui est resté une expression pour les gens qui sont un petit peu cultivés. Moi, je suis quand même tout petit peu de culture. Mais quand vous entendez le mot j'arnie Coton, c'est de là que ça vient. Peut-être j'arnie Coton, ça ne vous dit rien du tout, mais ça vient de là qu'un homme a eu une pensée divine et intelligente, c'était de remplacer un juron qui attirait la malédiction de Dieu sur lui constamment et qui, finalement, il fallait faire quelque chose à ce sujet. N'est-ce pas formidable? Et c'est ce que je vous engage à faire. Si vous voulez changer vos mauvaises habitudes, échangez-les. Là où vous avez une mauvaise habitude, mettez une bonne habitude à la place. Mettez quelque chose de positif, mettez quelque chose de constructif. Pourquoi la plupart des régimes restrictifs pour les gens qui veulent perdre du poids ne marchent pas? Ce sont des régimes privatifs. Les gens sont frustrés parce qu'ils aiment manger et ils aiment beaucoup de choses et on leur dit maintenant plus droit, plus ceci, plus cela, etc. Donc pendant un temps, à la force du poignet, ils arrivent et puis après... Et ils se relâchent, ils reprennent. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette dimension du remplacement. Il ne faut pas que la maison soit vide. Comprenez? Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je vais vous lire encore quelques autres aspects. Attitude. On a parlé du comportement. Attitude. Être toujours négatif. Dur avec soi-même et les autres. Critiquer. Toujours râler. Être inquiet ou angoissé. Ça, c'est pas bon, ça. Être inquiet ou angoissé. Mais c'est une habitude. La plupart du temps, ça arrive chez des gens qui étaient dans des milieux ou des familles où des gens étaient toujours inquiets. D'accord? Être négligent, laisser traîner les choses. Ça aura des conséquences. Au début, les enfants ne rangent pas les jouets. Ils rangent pas leurs habits en tant que jeunes gens. Plus tard, ils ne pourront pas faire un travail de façon efficace, et le ministère pour Dieu non plus. Donc, visons la perfection et soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Si Dieu ne l'avait pas demandé, on n'aurait pas à s'en faire. Mais parce que c'est écrit, nous avons maintenant un défi qui nous est lancé. Amen. C'est fantastique. Remarquez bien que quand le diable a voulu détruire Daniel, le prophète, il a empêché pendant 30 jours, il a voulu l'empêcher pendant 30 jours successifs de prier, parce que Daniel avait développé une habitude de prière. Peut-être pour nous, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin, parce que nous n'avons même pas développé une habitude de prière. Alors, vous savez quoi? Il faudra commencer. Commencer et puis répéter. Encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Une habitude telle que le diable va en avoir peur. Vous vous rendez compte? Il a inventé une loi spéciale dans un pays pour empêcher un homme de prier. Ça, c'est une habitude puissante. Amen.